Et la question qu'on vous posait hier et à laquelle il fallait répondre par oui ou par non était la suivante. Face à la crise des banques, selon vous, l'or devient-il une valeur refuge, oui ou non? Alors Blaise, quelles sont les tendances?
Eh bien, les tendances sont majoritaires sur les trois réseaux et les trois réseaux, donc Facebook, Instagram et Twitter. Sur les trois réseaux, nos auditeurs pensent que oui. Sur Facebook, c'est à 84%. Sur Instagram, c'est à 86%. Et sur Twitter, c'est à 75%. Les gens pensent donc que face à la crise des banques, l'or peut devenir une valeur refuge. Nous allons donc demander à notre invité, Daniel Guggenheim, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, conseiller économique pour l'organisation israélienne Qualita. Alors que pensez-vous de ces résultats? Face à la crise des banques, l'or peut-il devenir une valeur refuge selon vous?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vos auditeurs et je vais essayer d'expliquer économiquement par des mots savants, ce que vos éditeurs sont. En vérité, il faut revenir depuis le début des années 70, où le dollar a été séparé, ce qu'on appelle de l'or, de l'étalon or. Et depuis ce moment-là, les monnaies ont commencé à bouger n'importe comment. Et depuis à peu près 50 ans, on est dans ce régime-là, tout d'un coup, ça monte, ça descend, et le système monétaire est désorganisé. À part ça, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis à peu près les années 2010, on est arrivé dans une situation où tout était pas cher. Il y avait plus d'inflation. Les matières premières étaient pas chères, le travail était pas cher, tout baissait. Et alors, on s'est dit qu'on est arrivé dans une situation où il n'y aurait plus d'inflation. Et c'est pour ça que l'or, d'ailleurs, a perdu son éclat pendant beaucoup d'années, parce qu'il n'y avait pas de raison d'en avoir, puisqu'on pensait que le progrès technologique et les autres allaient faire qu'il n'y aurait plus besoin de tellement comme avant de cette matière-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis, après la crise du Covid, comme on le sait, et on a eu la guerre en Ukraine, et tout d'un coup, tous les économistes ont vu que ce qu'ils avaient pensé pendant des années n'était plus vrai. Tout d'un coup, les matières premières ont beaucoup augmenté, le coût du travail est devenu très important, et il y avait moins de production en tout. Et tout ça a fait ce qu'on appelle la rareté. Et l'or est très important lorsqu'il y a rareté, parce qu'il est non seulement une valeur refuge, mais une valeur aussi, c'est un produit qui est dans la nature et qui est par définition pas inépuisable. Il y a un certain nombre d'or dans le monde et c'est ce qu'il y a. Et c'est ça qui fait sa force aussi, à part son intérêt pour la bijouterie ou pour l'industrie. Et c'est pour ça que maintenant, l'or, c'est depuis le début de l'année, d'ailleurs 2023, a augmenté de 10% à peu près, que de plus en plus, malgré ce que les banques centrales font, l'inflation n'arrive pas vraiment à baisser. Et on pense que les économistes, il y a d'ailleurs un économiste français très important qui s'appelle Artus, qui a dit il a publié un livre récemment, il a dit c'est fini, on est maintenant dans une économie de rareté et les banques centrales vont s'apercevoir de ça dans un an à peu près, que tout ce qu'ils font ne changera pas. Et l'or, donc, a sûrement de l'intérêt pour l'avenir, surtout dans les moments que vous dites qu'en plus de ça, qu'il y a eu des faillites dans les banques et que la hausse des taux d'intérêt, apparemment, est à son apogée et on ne pense pas qu'elle va encore beaucoup augmenter par rapport au niveau où il est.
Daniel Guggenheim, on parle actuellement de ruée vers l'or des temps modernes. N'est-ce pas un risque de dérèglement de marché?
D'abord, le dérèglement, il est déjà là. Quand vous avez des, pour ne pas dire, quand du Bitcoin qui tout d'un coup, il y a quelques mois de ça, on pensait qu'il n'existerait plus, que c'est quelque chose qui est spéculatif, qui ne remonte sur rien. Alors, et tout d'un coup, maintenant, il remonte très, très fort. Les marchés sont déréglés. Ils ont été déréglés parce qu'il y a eu pendant des années des taux d'intérêt négatifs, pas seulement réels, mais même négatifs. Et tout ça a fait que l'année financière, tous les taux économiques n'allaient pas. Et les marchés sont complètement désorientés. On s'étonne d'ailleurs. Ils ont un peu repris maintenant en Europe et aux États-Unis depuis quelques mois. Et on se demande pourquoi. Parce qu'en fait, on pense qu'il y aura encore, même si c'est peu, il y aura encore des hausses des taux d'intérêt et ils ne descendront pas facilement. Et donc tout ça fait que, en fait, effectivement, on peut s'étonner le marché est désorganisé, en fait. Il y a des mouvements qu'on n'arrive pas à comprendre, même à moyen terme, par rapport à ce qui se passe.
Alors, beaucoup de gens n'ont jamais franchi le cap d'acheter de l'or. Est-ce que c'est intéressant, selon vous, de le faire ?
Oui, je l'ai dit, il faut toujours en avoir dans son portefeuille, surtout à ce moment-là. Et maintenant, d'ailleurs, les financiers ont raison pour ça. On achète beaucoup moins, comme avant, des pièces ou des lingots, parce que d'abord, ça coûte de l'argent, il faut les entreposer, et puis ça peut s'abîmer. Les gens achètent du papier or, c'est-à-dire ce qu'on appelle des paniers ETF en Amérique, ou bien même des obligations, des actions qui sont basées sur l'or et qu'ils donnent en plus des intérêts ou des dividendes. C'est ça que les gens font lorsqu'ils veulent investir dans l'or.
Fiscalement, c'est bénéfique aussi ?
Chaque pays, par rapport à l'or, il a ses propres règles fiscales. Je ne sais pas comment c'est en Belgique. En Israël, par exemple, il y a 25% qui sont sur les plus-values qu'on fait. Je suppose chaque pays, ça doit être comme des actions, des obligations, suivant ce que la législation interne du pays donne.
Alors, on en a parlé tout à l'heure, il y a eu une forte crise des banques récemment, c'est des grands noms qui sont touchés. Est-ce qu'on doit vraiment craindre cette crise ?
Oui, d'ailleurs, j'ai vu que les banques européennes, même à part seulement la Suisse, j'ai lu des noms comme la Société Générale ou Crédit Agricole, qu'ils n'ont pas bien réussi ce qu'on appelle le stress, c'est-à-dire les mesures concernant s'il y a une catastrophe, est-ce qu'ils ne font pas faillite ou pas. Et donc, effectivement, je pense que ce qu'on lit dans la presse et je vois ce que les analystes financiers disent, je ne crois pas que c'est terminé le problème de la faillite bancaire, surtout que même si les taux, comme j'ai dit, on pense, sont un peu à leur apogée, qu'ils ne nous montrent pas encore très très fort, mais de toute façon, même au niveau où c'est, c'est très très dangereux pour le système bancaire et on a peur de beaucoup de faillites, pas seulement bancaires d'ailleurs dans le monde, et effectivement, on n'est pas loin de ce qu'on appelle le taux qui pourrait entraîner des faillites très très importantes, comme c'est passé d'ailleurs dans les années 29. C'est ça la crainte d'ailleurs dans le monde financier, que l'on ait d'une crise financière qui arrive à une crise économique. C'est ce qui s'est passé il y a à peu près 100 ans, en 1929, avec les conséquences qu'on connaît, très très dures pour l'économie et la société.
Vous qui êtes économiste, est-ce que c'était une crise qui était prévue ou elle est arrivée d'un seul coup ?
C'était prévu, tout le monde, c'est impossible qu'il n'y ait pas autrement. Lorsqu'on augmente les taux d'intérêt, toutes les banques centrales dans le monde entier, qui sont toutes les banques centrales, en tout cas importantes, qu'elles soient en Europe ou en Amérique ou même en Israël, quand on augmente ça de façon agressive, après qu'on se soit habitué à des niveaux très très faibles, c'est évident qu'on arrive à des catastrophes. C'est même, je suis étonné que ce n'est pas arrivé avant. Et d'ailleurs, on remarque que bien que ces banques-là, la SVB ou autres États-Unis, étaient bien cotées par les entreprises de cotation, mais apparemment, le travail n'avait pas été bien fait parce qu'ils ne se sont pas, ils n'ont pas fait ce qu'on appelle des mesures de trésorerie qui leur permettraient de pouvoir sauvegarder leur bilan. Ils ont très très mal agi et c'est étonnant que ce n'est pas arrivé avant.
Et alors, comment est-ce qu'on va s'en sortir prochainement ou c'est une crise qui va perdurer?
Beaucoup d'économistes pensent que c'est ce qui va perdurer. Vous voyez les dettes en Europe, par exemple. Regarde, je connais pas les chiffres de la Belgique. Je sais que la France est terriblement endettée. On parle de 13 millions d'euros, des 120% de son PIB. Lorsque les taux d'intérêt montent, ça augmente. C'est de dizaines de milliards d'euros la facture qu'il faut payer au marché financier. Et donc, les économistes en général sont très, très inquiets sur ce qui va arriver en tout cas jusqu'en 2024. On sait pas, on peut toujours espérer le miracle, mais point de vue économique, la situation où on est maintenant est extrêmement dangereuse. Et je m'étonnerais pas qu'on entend par-ci ou par-là des catastrophes. Je sais que, par exemple, en France, je le lis, le nombre de faillites est très, très important et il y a des problèmes bureaucratiques pour lequel ce n'est pas diffusé, mais à mon avis, ça sera beaucoup dans le monde industriel. On arrive d'ailleurs maintenant dans ce qu'on appelle la transformation écologique et que, effectivement, tout ça fera que on est dans une situation de transition. C'est toujours une situation de transition, sont très dangereuses, Et on risque encore un certain temps, à mon avis, d'être dans une situation chaotique. Bien sûr, il peut y avoir des choses géopolitiques qui changent des choses, fin de l'arrêt en guerre d'Ukraine, des choses comme ça. Mais je ne sais pas si sur le long terme, ça changera.
Daniel Guggenheim, je rappelle que vous êtes économiste, conseiller économique pour l'organisation israélienne Qualita. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka.
Merci. Au revoir. Bonne fête.